Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Marc Jelitska, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'association Négawatt, Négawatt donc, et auteur avec d'autres de l'ouvrage notamment Manifeste Négawatt, en route pour la transition énergétique, qui était un ouvrage collectif. Alors tout simplement, est-ce que vous pourriez, on va présenter très rapidement, succinctement, l'association Négawatt, et notamment à travers le nom Négawatt, qui est une association qui a 20 ans maintenant, qui est active. Est-ce que vous pourriez nous présenter, notamment dans l'idée qui préside à sa création?
Alors, le nom de Négawatt, ça vient d'une coquille d'imprimerie. C'était aux États-Unis, quelqu'un qui s'appelle Amory Lovins, qui est un très grand spécialiste de l'économie d'énergie, et qui avait écrit un livre, et dans l'épreuve, le bon à tirer, il avait vu qu'il y avait une erreur d'impression, et il avait choisi de garder ce nom Négawatt. Donc c'est le nom Watt, c'est mettre en avant les économies d'énergie. Donc cette association s'est créée en France en 2001, et ce sont des gens de terrain dans divers secteurs d'activité, toujours autour évidemment de l'énergie. Moi, mon sujet, c'était le photovoltaïque. Il y en a d'autres, c'était la rénovation du logement ou d'autres, l'économie. Et donc, c'est une initiative citoyenne d'expertise, on va dire, pour la construction de scénarios prospectifs à 2050. Un scénario, ce n'est pas prédire ce qui va se passer, ce n'est pas une boule de cristal. C'est dire voilà ce qu'on pourrait faire en se donnant les moyens pour avancer dans la transition énergétique, c'est-à-dire résoudre les crises importantes qui sont devant nous, maintenant qui ne sont même pas devant nous, on est dedans, le changement climatique notamment, l'épuisement des ressources, les questions de biodiversité, voilà, tous ces sujets-là. Donc c'est notre activité depuis 20 ans, d'essayer de donner des bonnes idées aux décideurs politiques, économiques, aux citoyens, aux habitants, pour avancer.
Justement, cette réflexion, autour de quels principes généraux, est-ce que vous organisez la pensée, voilà, de vos recherches en tant que telles?
Alors, on a développé ce qu'on appelle un triptyque. Notre triptyque Négawatt, c'est sobriété, efficacité, renouvelable. Les trois sont aussi importants les uns que les autres. Ils doivent être mis en œuvre en même temps. Donc, la sobriété, c'est limiter ses besoins, en fait. Réfléchir, c'est typiquement mettre un pullover plutôt que d'augmenter le chauffage dans la maison. C'est rouler moins vite sur la route parce que l'objectif, c'est d'arriver en vie dans un certain temps. Et si on met un peu plus de temps, c'est pas grave. Le besoin qu'on a, c'est de se déplacer. Donc voilà, c'est venir vraiment aux fondamentaux de pourquoi on fait ci ou ça. L'efficacité, c'est comment l'énergie qu'on va avoir besoin de consommer de toute façon, parce que pour se déplacer, il faut consommer de l'énergie, eh bien, comment on va le faire le plus efficacement possible. Ça veut dire des voitures moins lourdes, avec des moteurs plus performants. Dans le logement, ça veut dire je vais isoler ma maison ou mon immeuble pour pouvoir consommer moins d'énergie. Et donc, c'est de cumuler la sobriété, qui est plutôt le comportement, l'efficacité, qui est plutôt le domaine de la technique et de l'ingénieur. Les deux cumulés peuvent nous permettre en France de diviser par deux notre consommation d'énergie globale. Et une fois qu'on a divisé par deux, la production dont on a encore besoin, la faire par des énergies les moins impactantes sur l'environnement, les plus écologiques, on va dire, qui sont les énergies renouvelables.
Alors justement, il y a l'idée de remplacer les énergies. Et voilà, quelles sont les énergies les plus polluantes aujourd'hui, ou les sources d'énergie les plus polluantes?
Alors il y a deux types d'énergie. Alors, notre système énergétique aujourd'hui en France et dans le monde entier repose essentiellement sur les énergies fossiles. Donc c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel qui ont un très fort impact sur le changement climatique, donc qui changent le climat du monde au point de rendre la Terre peut-être un jour invivable pour les humains et les êtres vivants d'une manière générale, et qui aussi créent des pollutions locales, typiquement les particules en milieu urbain ou des atteintes à la biodiversité. Donc c'est là, tout le monde est d'accord qu'il faut absolument s'en passer le plus vite possible, et le plus vite sera le mieux. Et puis il y a une autre catégorie d'énergie, en tout cas qui est très présente en France, évidemment, c'est le nucléaire. Et le nucléaire, alors, est nettement meilleur que les fossiles sur la question du changement climatique, c'est indéniable, mais il n'est pas meilleur que les renouvelables non plus. Mais surtout, il n'y a pas que le problème du changement climatique, il y a d'autres questions du développement, ce qu'on appelle le développement soutenable. Et de ce point de vue-là, le nucléaire ne répond pas, ne coche pas les cases. Il est dangereux, il crée des déchets à très longue vie, il peut être utilisé à des fins militaires, il est impossible, il est inconcevable de le développer partout dans le monde. Je rappelle souvent que la France avait vendu une centrale nucléaire à Saddam Hussein, et c'est les Israéliens qui l'ont bombardée avant qu'elle soit chargée en uranium, parce qu'à l'époque, Saddam Hussein était un ami du président Chirac. Donc l'enjeu du nucléaire ne peut pas être une solution à l'échelle mondiale. Et en France, c'est une solution dont il faudra sortir le plus vite possible, en faisant attention évidemment à ne pas augmenter les gaz à effet de serre en contrepartie. Mais voilà, donc c'est ces deux familles dont il faut arriver à se passer. Et la bonne nouvelle, c'est que les travaux de Négawatt, d'abord, mais maintenant, on n'est pas les seuls à le dire, hein, l'ADEME ou RTE le disent aussi, montrent que la France est dotée de capacité de s'en sortir, d'arriver à une transition vers le 100% renouvelable, en baissant la consommation, encore une fois, de 50% et en développant la production d'énergie renouvelable, électrique ou gaz ou chaleur.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler des différentes sources d'énergie renouvelables, pour le coup, que Négawatt soutient ?
Alors il y a trois grandes catégories. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle les bioénergies, donc c'est le bois. Donc c'est les énergies qui viennent de la matière vivante, donc le bois, le biogaz qui vient de matière organique, le biocarburant, mais dans une certaine limite parce que les biocarburants n'ont pas un bilan extraordinairement positif, mais on peut en avoir un peu quand même. Ça c'est donc bioénergie. Le deuxième c'est les renouvelables électriques. Donc là, la part du lion, c'est l'éolien qui ferait deux tiers du job et le photovoltaïque le dernier tiers pour couvrir nos besoins d'électricité. Et puis une troisième catégorie qui est plus diffuse, qu'on appelle la chaleur de l'environnement, c'est-à-dire c'est la chaleur de l'air ou du sol qu'on va aller chercher grâce à des pompes à chaleur pour chauffer de manière très efficace des bâtiments qui ont été très bien isolés. Donc voilà. En fait, c'est vraiment la logique de bouquet énergétique ou de mix énergétique. C'est vraiment le cœur du métier des renouvelables. Il n'y a pas une forme qui va tout faire. Il faut une diversité en fonction des ressources locales, en fonction des usages, en fonction des capacités financières ou des compétences techniques. Il y a beaucoup de solutions et c'est une vraie richesse.
Justement, aujourd'hui, on se situe dans une crise écologique, évidemment, climatique, sur laquelle vous réfléchissez et trouvez des solutions. Mais nous voyons aussi que c'est un enjeu, d'une certaine manière, d'indépendance et de démocratique, et d'indépendance et d'autonomie.
Oui, bien entendu. Ça, c'est une constante. On le sait depuis longtemps. Et la guerre en Ukraine et les conséquences de la crise autour de ça nous le révèlent en pleine face, comme on dit. En tout cas, au grand jour, c'est pas nouveau. On a mis beaucoup de temps à réagir. Enfin, quand je dis on, c'est pas Négawatt, justement, c'est les décideurs. Mais on voit que, et c'est pas du tout un hasard, que les réponses à cette crise, des réponses dans l'urgence et des réponses à moyen terme, sont les mêmes que celles de la crise climatique et la crise écologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des solutions d'un côté de paix et des solutions de l'autre côté de transition énergétique et écologique. Ce sont les mêmes, et notamment, encore une fois, la sobriété, qui vient vraiment en premier. Et d'ailleurs, les mesures qui ont été préconisées par l'Agence internationale de l'énergie, les 10 mesures pour moins dépendre du pétrole et du gaz russe, sont quasiment un copier-coller des mesures qu'on propose depuis 20 ans dans la catégorie sobriété. Baisser son chauffage, aller moins vite sur la route, etc. Malheureusement, il aura fallu une guerre violente, avec tout ce que ça comporte, de drames humains et au-delà, pour que ça revienne en haut de la pile. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de sobriété, on se faisait traiter d'Amish. Bonjour les Amish.
D'ailleurs, les objectifs de Négawatt sont, comment dire, vous reprenez les objectifs édictés par l'ONU, qui ne se résument pas tout simplement à la réduction des gaz à effet de serre, mais sont des objectifs aussi de réduction des inégalités sociales. Est-ce que vous pourriez justement nous développer les différents objectifs ?
Oui, alors, un par un non, mais on y tient énormément à ça. Alors, ces objectifs de développement durable, ils ont été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU quelques semaines avant la COP 21 à Paris, hein, l'accord de Paris sur le changement climatique. Et donc, il y en a 17 au total. Le changement climatique, c'est le numéro 13, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut aller se documenter dessus. Mais c'est ce qui donne vraiment de la cohérence. Alors, c'est ce qui vraiment enrichit la notion de développement durable, qui est un peu un mot valise, qui est un peu usé, etc. Donc l'ONU a fait un effort de préciser ça à travers ces 17 objectifs qui sont très précis, en fait. Et c'est bien à l'aune de ces objectifs-là, de leur cohérence, dans une logique vraiment systémique et globale, comme on dit, qu'on inscrit notre démarche. On le fait depuis le début, mais d'avoir été rejoint encore une fois par cette vision-là, pour nous, c'est un apport essentiel. Et toute prospective ou toute proposition d'évolution de politique énergétique qui ne s'inscrirait pas dans ces ODD serait non seulement dangereuse, mais vraiment nuisible.
Les grandes préconisations que vous avez, sans toutes les détailler, parce qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes priorités aujourd'hui, notamment en France ?
Alors, les grandes priorités, il y en a notamment dans le bâtiment. Il faut absolument qu'on réduise la consommation d'énergie du bâtiment. Et ça, c'est l'isolation des bâtiments existants. Il y a des efforts à faire aussi dans l'industrie. Alors, l'industrie fait déjà des efforts parce que ça fait gagner de l'argent de consommer moins d'énergie, mais on a encore beaucoup de choses à faire. On a fait un travail assez important pour cette nouvelle version du scénario à travers une analyse sur les matières premières d'une part et sur les process industriels d'autre part. On a travaillé beaucoup avec l'ADEME et là aussi on a des éléments qui montrent qu'il y a des efforts importants à faire. Et puis il y a le gros sujet de la mobilité. C'est un énorme sujet. On a vu avec les gilets jaunes que c'était un point aussi très sensible. Donc là, on a des propositions qui valent ce qu'elles valent. Mais de toute façon, c'est le sujet probablement le plus compliqué, ça va être celui-là. Parce que le pétrole pas cher, ça fait une addiction, en fait. Hein, c'est une drogue dure. Et on le voit, on l'a vu avec la crise des gilets jaunes. On le voit maintenant avec l'augmentation du prix à la pompe. Et les solutions alors, de bouclier énergétique ou à très court terme, on peut le comprendre d'un point de vue social. Encore faudrait que ça s'adresse vraiment aux gens qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Les riches peuvent payer pour leur essence quand même, mais ça ne résoudra pas le problème à plus long terme. Et le problème à plus long terme, c'est de s'organiser autrement, à la fois l'organisation spatiale hein, de l'espace, d'avoir des transports partagés beaucoup plus, voilà, d'avoir des pratiques différentes. On le voit avec le covoiturage, on peut le voir avec l'autopartage, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Évidemment, les modes doux, le vélo et tout ça. Donc il faut aussi que les villes organisent des pistes cyclables, enfin, des choses très très concrètes qui demanderont un petit peu de temps. Mais c'est bien l'ensemble de ces mesures-là qui va y arriver. Donc c'est les trois gros sujets, quoi. C'est le bâtiment, la mobilité et l'industrie.
Quels sont les moyens et les acteurs qui sont fondamentaux justement dans la mise en œuvre des politiques de transition énergétique et notamment des préconisations que vous donnez ?
Alors les comportements individuels, ce qu'on appelle nous la sobriété, tout ce qu'on peut changer en changeant ses habitudes, on va dire que c'est à peu près 25%, un tiers du chemin. Donc c'est absolument indispensable, mais ça ne fait pas tout. Et après, il y a des questions de politique pure, enfin de politique locale, de politique nationale, de choix d'investissement dans un secteur ou un autre. Et aujourd'hui, les deux gros besoins d'investissement, c'est dans le bâtiment, l'isolation, et dans la production d'énergie renouvelable. La France étant le dernier pays de l'Union européenne, le 27e au classement général sur l'atteinte de ses objectifs qu'elle s'était donné en 2010 pour 2020. Donc il faut vraiment mettre le paquet là-dessus, l'éolien et le photovoltaïque, il faut libérer les énergies renouvelables, on va dire. C'est une urgence et il y a des propositions assez concrètes là-dessus à faire.
Très bien. Merci Marc Jelitzka pour cet entretien. Donc vous êtes, je le rappelle, porte-parole de l'association Négawatt. Merci à vous.
Merci, au revoir.